Au moment où j'allais chez Madame Swann, l'affaire Dreyfus n'avait pas encore éclaté, et certains grands juifs étaient fort puissants. Aucun ne l'était plus que Sir Rufus Israël, dont la femme, Lady Israël, était la tante de Swann. Elle n'avait pas personnellement des intimités aussi élégantes que son neveu, qui, d'autre part, ne l'aimant pas, ne l'avait jamais beaucoup cultivée, quoiqu'il dût vraisemblablement être son héritier. Mais c'était la seule des parentes de Swann qui eut conscience de la situation mondaine de celui-ci, les autres étant toujours restées à cet égard dans la même ignorance qui avait été longtemps la nôtre. Quand dans une famille un des membres émigre dans la haute société, ce qui lui semble à lui un phénomène unique, mais ce qu'à 10 ans de distance il constate avoir été accompli d'une autre façon et pour des raisons différentes, par plus d'un jeune homme avec qui il avait été élevé, il décrit autour de lui une zone d'ombre, une terra incognita, fort visible en ses moindres nuances pour tous ceux qui l'habitent, mais qui n'est que nuit, pur néant pour ceux qui n'y pénètrent pas et la côtoient sans en soupçonner tout près d'eux l'existence. Aucune agence avasse n'ayant renseigné les cousines de Swann sur les gens qu'il fréquentait, c'est, avant son horrible mariage, bien entendu, avec des sourires de condescendance qu'on se racontait dans les dîners de famille, qu'on avait vertueusement employé son dimanche à aller voir le cousin Charles, que, le croyant un peu envieux et parent pauvre, on appelait spirituellement, en jouant sur le titre du roman de Balzac, le cousin bête. Lady Rufus Israël, elle, savait à merveille qui étaient ces gens qui prodiguaient à Swann une amitié dont elle était jalouse. La famille de son mari, qui était à peu près l'équivalent des Rothschild, faisait depuis plusieurs générations les affaires des princes d'Orléans. Lady Israël, excessivement riche, disposait d'une grande influence et elle l'avait employée à ce qu'aucune personne qu'elle connaissait ne reçût aux dettes. Une seule avait désobéi, en cachette. C'était la comtesse de Marsante. Or, le malheur avait voulu qu'Odette étant allée faire visite à Madame de Marsante, Lady Israël était entrée presque en même temps. Madame de Marsante était sur des épines. Avec la lâcheté des gens qui pourtant pourraient tout se permettre, elle n'adressa pas une fois la parole à Odette, qui ne fut pas encouragée à pousser désormais plus loin une incursion dans un monde qui, du reste, n'était nullement celui où elle eût aimé être reçue. Dans ce complet désintéressement du faubourg Saint-Germain, Odette continuait à être la cocotte illettrée, bien différente des bourgeois ferrés sur les moindres points de généalogie et qui trompent dans la lecture des anciens mémoires la soif des relations aristocratiques que la vie réelle ne leur fournit pas. Et Swann, d'autre part, continuait sans doute d'être l'amant à qui toutes ces particularités d'une ancienne maîtresse semblent agréables ou inoffensives, car souvent j'entendis sa femme proférer de vraies hérésies mondaines sans que, par un reste de tendresse, un manque d'estime ou la paresse de la perfectionner, il cherchât à les corriger. C'était peut-être aussi là une forme de cette simplicité qui nous avait si longtemps trompés à Combray et qui faisait maintenant que, continuant à connaître, au moins pour son compte, des gens très brillants, il ne tenait pas ce que dans la conversation on eût l'air dans le salon de sa femme de leur trouver quelque importance. Ils en avaient d'ailleurs moins que jamais pour Swann, le centre de gravité de sa vie s'étant déplacé. En tout cas, l'ignorance d'Odette en matière mondaine était telle que, si le nom de la princesse de Guermantes venait dans la conversation après celui de la duchesse, sa cousine, « Tiens, ceux-là sont princes. Ils ont donc monté en grade ?» disait Odette. Si quelqu'un disait « le prince » en parlant du duc de Chartres, elle rectifiait « le duc, il est duc de Chartres et non prince. » Pour le duc d'Orléans, fils du comte de Paris, c'est drôle, le fils est plus que le père. Tout en rajoutant, comme elle était anglomane, on s'y embrouille dans ses royalties. et à une personne qui lui demandait de quelle province était l'égarmante, elle répondit « De l'Aisne ». Swann était du reste aveugle en ce qui concernait Odette, non seulement devant ses lacunes de son éducation, mais aussi devant la médiocrité de son intelligence. Bien plus, chaque fois qu'Odette racontait une histoire bête, Swann écoutait sa femme avec une complaisance, une gaieté, presque une admiration où il devait entrer des restes de volupté. Tandis que, dans la même conversation, ce que lui-même pouvait dire de fin, même de profond, était écouté par Odette habituellement sans intérêt, assez vite, avec impatience, et quelquefois contredit avec sévérité. Et on conclura que cet asservissement de l'élite à la vulgarité est de règle dans bien des ménages, si l'on pense inversement à tant de femmes supérieures qui se laissent charmer par un butor, censeur impitoyable de leurs plus délicates paroles, tandis qu'elles s'extasient avec l'indulgence infinie de la tendresse devant ses facéties les plus plates. Pour revenir aux raisons qui empêchèrent à cette époque Odette de pénétrer dans le faubourg Saint-Germain, il faut dire que le plus récent tour du kaléidoscope mondain avait été provoqué par une série de scandales. Des femmes chez qui on allait en toute confiance avaient été reconnues être des filles publiques, des espionnes anglaises. On allait pendant quelque temps demander aux gens, on le croyait du moins, d'être avant tout bien posés, bien assis. Odette représentait exactement tout ce avec quoi on venait de rompre, et d'ailleurs immédiatement de renouer, car les hommes, ne changeant pas du jour au lendemain, cherchent dans un nouveau régime la continuation de l'ancien. Mais en le cherchant sous une forme différente qui permit d'être dupe et de croire que ce n'était plus la société d'avant la crise. Or, aux dames brûlées de cette société, Odette ressemblait trop. Les gens du monde sont fort myopes. Au moment où ils cessent toute relation avec des dames israélites qu'ils connaissaient, pendant qu'ils se demandent comment remplacer ce vide, ils aperçoivent, poussée là comme à la faveur d'une nuit d'orage, une dame nouvelle, israélite aussi. Mais grâce à sa nouveauté, elle n'est pas associée dans leur esprit comme les précédentes avec ce qu'ils croient devoir détester. Elle ne demande pas qu'on respecte son Dieu, on l'adopte. Il ne s'agissait pas d'antisémitisme à l'époque où je commençais à aller chez Odette, mais elle était pareille à ce qu'on voulait fuir pour un temps. Swann, lui, allait souvent faire visite à quelques-unes de ses relations d'autrefois et par conséquent appartenant toutes au plus grand monde. Pourtant, quand il nous parlait des gens qu'il venait d'aller voir, je remarquais qu'entre celles qu'il avait connues jadis, le choix qu'il faisait était guidé par cette même sorte de goût, mi-artistique, mi-historique, qui inspirait chez lui le collectionneur. Et remarquant que c'était souvent telle ou telle grande dame déclassée qui l'intéressait parce qu'elle avait été la maîtresse de Liszt, ou qu'un roman de Balzac avait été dédié à sa grand-mère, comme il achetait un dessin si Chateaubriand l'avait décrit, j'eus le soupçon que nous avions remplacé à Combray l'erreur de croire Swann un bourgeois n'allant pas dans le monde par une autre, celle de le croire un des hommes les plus élégants de Paris. Être l'ami du comte de Paris ne signifie rien. Combien y en a-t-il de ces amis des princes qui ne seraient pas reçus dans un salon un peu fermé? Les princes se savent princes, ne sont pas snobs et se croient d'ailleurs tellement au-dessus de ce qui n'est pas de leur sang que grands seigneurs et bourgeois leur apparaissent au-dessous d'eux presque au même niveau. Au reste, Swann ne se contentait pas de chercher dans la société telle qu'elle existe et, en s'attachant au nom que le passé y a inscrit et qu'on peut encore y lire, un simple plaisir de lettré et d'artiste. Il goûtait un divertissement assez vulgaire à faire comme des bouquets sociaux, en groupant des éléments hétérogènes, en réunissant des personnes prises ici et là. Ces expériences de sociologie amusantes, ou que Swann trouvait-elles, n'avaient pas sur toutes les amies de sa femme, du moins d'une façon constante, une répercussion identique. J'ai l'intention d'inviter ensemble les Cottard et la duchesse de Vendôme, disait-il en riant à madame Bontemps, de l'air friand d'un gourmet qui a l'intention et veut faire l'essai de remplacer dans une sauce les clous de girofle par du poivre de Cayenne. Or, ce projet, qui allait paraître en effet plaisant dans le sens ancien du mot aux Cottard, avait le don d'exaspérer madame Bontemps. Elle avait été récemment présentée par les Swann à la duchesse de Vendôme et avait trouvé cela aussi agréable que naturel. En tirer gloire auprès des Cottard en le leur racontant n'avait pas été la partie la moins savoureuse de son plaisir. Mais comme les nouveaux décorés qui, dès qu'ils le sont, voudraient voir se fermer aussitôt le robinet des croix, madame Bontemps eût souhaité qu'après elle, personne de son monde à elle ne fût présenté à la princesse. Elle maudissait intérieurement le goût dépravé de Swann qui lui faisait, pour réaliser une misérable bizarrerie esthétique, dissiper d'un seul coup toute la poudre qu'elle avait jetée aux yeux des Cottard en leur parlant de la duchesse de Vendôme. Comment allait-elle même oser annoncer à son mari que le professeur et sa femme allaient à leur tour avoir leur part de ce plaisir qu'elle lui avait vanté comme unique. Encore si les Cottard avaient pu savoir qu'ils n'étaient pas invités pour de bon, mais pour l'amusement. Il est vrai que les Bontemps l'avaient été de même, mais Swann ayant pris à l'aristocratie cet éternel donjuanisme qui, entre deux femmes de rien, fait croire à chacune que ce n'est qu'elle qu'on aime sérieusement, avait parlé à madame Bontemps de la duchesse de Vendôme comme d'une personne avec qui il était tout indiqué qu'elle dînât. « Oui, nous comptons inviter la princesse avec les Cottard, » dit quelques semaines plus tard madame Swann. « Mon mari croit que cette conjonction pourra donner quelque chose d'amusant. » Car si elle avait gardé du petit noyau certaines habitudes chères à madame Verdurin, comme de crier très fort pour être entendue de tous les fidèles, en revanche, elle employait certaines expressions, comme conjonction, chère au milieu guermantes duquel elle subissait ainsi à distance et à son insu, comme la mer le fait pour la lune, l'attraction sans pourtant se rapprocher sensiblement de lui. « Oui, les Cottard et la duchesse de Vendôme, est-ce que vous ne trouvez pas que cela sera drôle ?» demanda Swann. « Je crois que ça marchera très mal et que ça ne vous attirera que des ennuis. Il ne faut pas jouer avec le feu, » répondit madame Bontemps, furieuse. Elle et son mari furent d'ailleurs, ainsi que le prince d'Agrigente, invités à ce dîner que madame Bontemps et Cottard eurent deux manières de raconter selon les personnes à qui ils s'adressaient. Aux uns, madame Bontemps de son côté, Cottard du sien, disaient négligemment quand on leur demandait qu'il y avait d'autres au dîner, il n'y avait que le prince d'Agrigente, c'était tout à fait intime. Mais d'autres risquaient d'être mieux informés, même une fois quelqu'un avait dit à Cottard, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi les Bontemps ?
Je les oubliais,
avait en rougissant répondu Cottard au maladroit qu'il classa désormais dans la catégorie des mauvaises langues.
Pour cela, les Bontemps et les Cottard adoptèrent chacun, sans s'être consultés, une version dont le cadre était identique et où seuls leurs noms respectifs étaient interchangés. Cottard disait « Eh bien, il y avait seulement les maîtres de maison, le duc et la duchesse de Vendôme, en souriant avantageusement, le professeur et madame Cottard et, ma foi, du diable si on n'a jamais su pourquoi, car ils allaient là comme des cheveux sur la soupe, monsieur et madame Bontemps. Car ils allaient là comme des cheveux sur la soupe, monsieur et madame Bontemps.
Le professeur et madame Cottard. Et, ma foi, du diable si on n'a jamais su pourquoi, car ils allaient là comme des cheveux sur la soupe, monsieur et madame Bontemps. Madame Bontemps récitait exactement le même morceau, seulement c'était monsieur et madame Bontemps qui étaient nommés avec une emphase satisfaite, entre la duchesse de Vendôme et le prince d'Agrigente, et les pelés qu'à la fin elle accusait de s'être invités eux-mêmes et qui faisaient tâche, c'étaient les Cottard. De ses visites, Swann rentrait souvent assez peu de temps avant le dîner. À ce moment de 6 heures du soir où jadis il se sentait si malheureux,
Il ne se demandait plus ce qu'Odette pouvait être en train de faire et s'inquiétait peu qu'elle eût du monde chez elle ou fût sortie. Il se rappelait parfois qu'il avait, bien des années auparavant, essayé un jour de lire à travers l'enveloppe une lettre adressée par Odette à Forcheville. Mais ce souvenir ne lui était pas agréable et, plutôt que d'approfondir la honte qu'il ressentait, il préférait se livrer à une petite grimace du coin de la bouche, complétée au besoin d'un hochement de tête qui signifiait « Qu'est-ce que cela peut me faire ?» Certes, il estimait maintenant que l'hypothèse à laquelle il s'était souvent arrêté jadis, et d'après quoi c'étaient les imaginations de sa jalousie qui seule noircissait la vie en réalité innocente d'Odette, que cette hypothèse, en somme bienfaisante, puisque, tant qu'avait duré sa maladie amoureuse, elle avait diminué ses souffrances en les lui faisant paraître imaginaires, n'était pas la vraie, que c'était sa jalousie qui avait vu juste et que, si Odette l'avait aimé plus qu'il n'avait cru, elle l'avait aussi trompé davantage. Autrefois, pendant qu'il souffrait tant, il s'était juré que dès qu'il n'aimerait plus Odette et ne craindrait plus de la fâcher ou de lui faire croire qu'il l'aimait trop, il se donnerait la satisfaction d'élucider avec elle, par simple amour de la vérité et comme point d'histoire, si oui ou non Forcheville avait couché avec elle le jour où il avait sonné et frappé au carreau sans qu'on lui ouvrît, et où elle avait écrit à Forcheville que c'était un oncle à elle qui était venu. Mais le problème si intéressant qu'il attendait seulement la fin de sa jalousie pour tirer au clair avait précisément perdu tout intérêt aux yeux de Swann quand il avait cessé d'être jaloux. Pas immédiatement pourtant. Il n'éprouvait déjà plus de jalousie à l'égard d'Odette que le jour des coups frappés en vain par lui dans l'après-midi à la porte du petit hôtel de la rue La Pérouse, avait continué à en exciter chez lui. C'était comme si la jalousie, pareille un peu en cela à ces maladies qui semblent avoir leur siège, leur source de contagionnement, moins dans certaines personnes que dans certains lieux, dans certaines maisons, n'avait pas eu tant pour objet Odette elle-même que ce jour, cette heure du passé perdue où Swann avait frappé à toutes les entrées de l'hôtel d'Odette. On aurait dit que ce jour, cette heure, avait seul fixé quelques dernières parcelles de la personnalité amoureuse que Swann avait eue autrefois et qu'il ne les retrouvait plus que là. Il était depuis longtemps insoucieux qu'Odette l'eût trompé et le trompa encore. Et pourtant, il avait continué pendant quelques années à rechercher d'anciens domestiques d'Odette. Tant avait persisté chez lui la douloureuse curiosité de savoir si ce jour-là, tellement ancien, à 6 heures, Odette était couchée avec Forcheville. Puis cette curiosité elle-même avait disparu, sans pourtant que ses investigations cessassent. Il continuait à tâcher d'apprendre ce qui ne l'intéressait plus, parce que son moi ancien, parvenu à l'extrême décrépitude, agissait encore machinalement, selon des préoccupations abolies au point que Swann ne réussissait même plus à se représenter cette angoisse, si forte pourtant autrefois qu'il ne pouvait se figurer alors qu'il s'en délivra jamais et que seule la mort de celle qu'il aimait, la mort qui, comme le montrera plus loin dans ce livre, une cruelle contre-épreuve, ne diminue en rien les souffrances de la jalousie, lui semblait capable d'aplanir pour lui la route entièrement barrée de sa vie. Mais éclaircir un jour les faits de la vie d'Odette auquel il avait dû ses souffrances n'avait pas été le seul souhait de Swann. Il avait mis en réserve aussi celui de se venger d'elle, quand, n'aimant plus Odette, il ne la craindrait plus. Or, d'exaucer ce second souhait, l'occasion se présentait justement car Swann aimait une femme qui ne lui donnait pas de motif de jalousie, mais pourtant de la jalousie parce qu'il n'était plus capable de renouveler sa façon d'aimer et que c'était celle dont il avait usé pour Odette qui lui servait encore pour une autre. Pour que la jalousie de Swann renaquît, il n'était pas nécessaire que cette femme fût infidèle. Il suffisait que pour une raison quelconque elle fût loin de lui, à une soirée par exemple, et eût paru s'y amuser. C'était assez pour réveiller en lui l'ancienne angoisse,
lamentable et contradictoire excroissance de son amour et qui éloignait Swann de ce qu'elle était comme un besoin d'atteindre. Le sentiment réel que cette jeune femme avait pour lui, le désir caché de ses journées, le secret de son cœur. Car entre Swann et celle qu'il aimait, cette angoisse interposait un amas réfractaire de soupçons antérieurs, ayant leur cause en Odette, ou en tel autre peut-être qui avait précédé Odette, et qui ne permettait plus à l'amant vieilli de connaître sa maîtresse d'aujourd'hui qu'à travers le fantôme ancien et collectif de la femme qui excitait sa jalousie, dans lequel il avait arbitrairement incarné son nouvel amour. Souvent pourtant, Swann l'accusait, cette jalousie, de le faire croire à des trahisons imaginaires, mais alors il se rappelait qu'il avait fait bénéficier Odette du même raisonnement, et à tort. Aussi, tout ce que la jeune femme qu'il aimait faisait aux heures où il n'était pas avec elle cessait de lui paraître innocent. Mais alors qu'autrefois il avait fait le serment, si jamais il cessait d'aimer celle qu'il ne devinait pas devoir être un jour sa femme, de lui manifester implacablement son indifférence, enfin sincère, pour venger son orgueil longtemps humilié, ces représailles qu'il pouvait exercer maintenant sans risque, car que pouvait lui faire d'être pris au mot et privé de ses tête-à-tête avec Odette qui lui était jadis si nécessaire. Ces représailles, il n'y tenait plus. Avec l'amour avait disparu le désir de montrer qu'il n'avait plus d'amour. Et lui qui, quand il souffrait par Odette, eût tant désiré de lui laisser voir un jour qu'il était épris d'une autre, maintenant qu'il l'aurait pu, il prenait mille précautions pour que sa femme ne soupçonnât pas ce nouvel amour.